Effectivement, quand nous passons par des moments difficiles, par des épreuves, par des difficultés, il peut nous arriver effectivement d'avoir certaines interrogations. Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il n'a pas l'air d'entendre mes prières? Est-ce qu'il est sourd? Est-ce qu'il est absent? Ce genre de questions, eh bien, ça peut nous éloigner éventuellement de lui. Et ça peut compromettre aussi notre foi. L'histoire du peuple d'Israël et le témoignage des chrétiens qui vivent sous la persécution peuvent nous aider à décoder ces choses. Les histoires bibliques, par exemple, nous parlent de la manière dont Dieu prend soin de son peuple et ainsi de la même occasion de nous. Serait-il possible que l'amour et la fidélité de Dieu se cachent au cœur même de nos épreuves? Lisons ensemble une histoire de l'Ancien Testament pour répondre à cette question.
Je lis dans 1 Samuel, chapitre 7, versets 1 à 14, version Semeur. 20 ans s'écoulèrent depuis le jour où le coffre de l'Alliance avait été déposé à Kiriath-Yérim. L'ensemble du peuple d'Israël aspirait à revenir à l'Éternel. Alors Samuel dit à tous les Israélites, « Si c'est de tout votre cœur que vous voulez revenir à l'Éternel, faites disparaître de chez vous les dieux étrangers et les idoles d'Astarté. Et attachez-vous de tout votre cœur à l'Éternel et rendez-lui un culte à lui seul. Alors il vous délivrera des Philistins. » Les Israélites firent disparaître de chez eux les Baals et les Astartés. Ils ne rendirent plus de culte qu'à l'Éternel. Samuel leur dit alors, « Ensemble, tout Israël à Mitzpah, je prierai l'Éternel pour vous. » Ils s'assemblèrent à Mitzpah, puisèrent de l'eau et la répandirent sur le sol devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là et confessèrent. Nous avons péché contre l'Éternel. C'est là, à Mitzpah, que Samuel fut le juge du peuple d'Israël. Lorsque les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient réunis à Mitzpah, leurs cinq princes décidèrent de les attaquer. Les Israélites en firent informer et ils prirent peur des Philistins. Ils dirent à Samuel, « Ne cesse pas de supplier l'Éternel notre Dieu en notre faveur pour qu'il nous sauve des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit entièrement en holocauste à l'Éternel. Puis il supplia l'Éternel de venir en aide à l'Israël. Et l'Éternel exauça sa prière. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Mais à ce moment-là, l'Éternel fit tourner contre les Philistins un puissant tonnerre qui les mit en déroute, de sorte qu'ils furent battus par les Israélites. Ces derniers sortirent des Mitzpah et battirent les Philistins en les poursuivant jusqu'au Déla de Bethkar. Samuel prit alors une pierre, la dressa entre Mitzpah et Shen et l'appela du nom d'Ebenezer, la pierre du secours, en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Les Philistins furent humiliés par cette défaite. Ils ne pénétrèrent plus à l'intérieur des frontières d'Israël, car l'Éternel intervint contre eux pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises à Israël, d'Écron à Gath, revinrent aux Israélites qui libérèrent tout leur territoire de leur emprise. La paix régna également entre Israël et les Amoréens.
Cette histoire se déroule dans un contexte qui est particulièrement difficile à ce moment-là dans l'histoire du peuple d'Israël. C'est une histoire qui clôture ce que l'on appelle dans la Bible la période des juges et qui est relatée dans le livre qui porte le même nom, le livre des juges. Dans tout ce livre et au début de 1 Samuel, on nous rapporte ces périodes qui sont comme dans des phases où la relation avec Dieu, entre Dieu et son peuple, est très ambivalente. Dans un premier temps, la relation que le peuple a avec Dieu périclite. Le peuple cesse de faire confiance à Dieu, commence à s'attacher à des idoles, Puis, il y a un abandon progressif de plus en plus. Pendant ce temps-là, il y a des ennemis qui viennent en Israël, qui viennent conquérir des territoires, asservir le peuple, etc. Et puis, les Israélites alors reviennent à l'Éternel, ils crient auprès de lui. Alors, Dieu leur envoie un homme qui est appelé juge pour délivrer le peuple de l'oppression que le peuple subit. Et ensuite s'ensuit un nouveau cycle où de nouveau le peuple s'éloigne de Dieu, etc. Et donc ce passage, eh bien c'est un passage qui est une énième histoire qui rapporte ses hauts et ses bas de cette relation entre Dieu et son peuple. La lecture du contexte de ce passage montre qu'Israël avait une mauvaise compréhension et de la signification de son alliance avec Dieu. Cette alliance était notamment représentée par l'Arche de l'Alliance, le coffre sacré qui contenait les tables de la loi de Moïse, un vase qui contenait la manne dont se nourrissait le peuple dans le désert à la sortie d'Égypte, et puis le bâton d'Aaron qui représentait l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Or, Israël considérait que la présence de l'arche constituait en soi comme une espèce de garantie de l'action de Dieu en sa faveur. Par exemple, lors des batailles, il suffisait que l'arche soit là et ils pensaient qu'ils étaient assurés de pouvoir gagner contre leurs ennemis. Ainsi, nous lisons au chapitre 4, quelques chapitres précédents, pour revenir au contexte de ce passage, que les Philistins s'étaient rassemblés pour faire la guerre à Israël. À ce moment-là, l'arche n'est pas avec le peuple d'Israël. Alors, il y a une première bataille qui est perdue par le peuple. Et puis le peuple dit, mais il faut absolument que l'arche vienne avec nous et là, on sera sûr de gagner. Mais, c'est ce qu'ils ont donc fait, mais vous vous en doutez peut-être un petit peu, Dieu attend autre chose de leur part et de notre part. Il attend un attachement qui vient du cœur et une adhésion exclusive à l'exclusion de toute autre idole, y compris de l'Arche de l'Alliance. Ainsi, Israël attendait un secours qui n'allait pas venir. Le peuple fut battu et l'Arche de l'Alliance prise par les Philistins. Et le peuple d'Israël fut déboussolé et déçu. Lui qui se réjouissait de la présence de Dieu, mais l'honorait mal, était donc puni pour son attitude qui tenait plus de la superstition que d'une foi obéissante. L'Arche de l'Alliance va alors séjourner chez les Philistins pendant 7 mois. Et elle va passer de lieu en lieu, parce que partout où elle est déposée, elle est un objet de malédiction, là où elle se trouve pour les Philistins. Et au bout de 7 mois, les Philistins disent, bah, là ça suffit, maintenant on n'en peut plus. Ils ont décidé de mettre l'Arche de l'Alliance dans une charrette avec des bœufs et de l'envoyer vers le territoire d'Israël pour s'en débarrasser tout heureux. Et là, eh bien, il y a les habitants Beth Shemok, et qui vont voir l'arche arriver comme ça. Alors, ils vont être curieux et ils vont regarder dans le coffre ce qu'il y a, ce qui n'était pas permis. Et 70 habitants vont périr à la suite de cet acte. Alors, les habitants de cette ville prennent peur et ils appellent les habitants de Kirjat Jearim pour leur dire « Mais venez récupérer l'arche, non, non, nous on n'en veut pas. » Et là, l'arche va alors résider dans cette ville, dans la maison d'Abinadab, pendant 20 ans, et nous arrivons au passage que Dadi nous a lu à ce moment-là. Cette situation illustre peut-être ainsi une réalité spirituelle qui est toujours présente, peut-être dans nos vies. Avec ces questions, avons-nous peur d'aller plus loin avec Dieu? Avons-nous peur de ce qu'il pourrait nous demander de faire? Préférons-nous le laisser en marge de nos vies? Nous appuyant, par exemple, sur une fausse sécurité? Ou bien laissons-nous insidieusement notre vie chrétienne se résumer à des règles que l'on suit, à des habitudes, à des coutumes, alors que Jésus, lui, nous appelle à une relation vivante de tous les jours avec lui. L'arche a donc été négligée et le peuple d'Israël s'est peu à peu éloigné de Dieu. L'arche, c'est parce que pendant ces 20 ans, l'arche allait rester dans un coin et donc elle a été négligée. Et le peuple d'Israël, lui, vit sous l'oppression des Philistins, mais il est resté éloigné de Dieu. Tout cela en conséquence du péché du peuple d'Israël, de son rejet de Dieu. Et l'oppression, donc, s'appesantit de plus en plus pour le peuple. Et du fait de l'épreuve, eh bien, le peuple revient enfin à Dieu, comme nous le voyons dans ce passage, dans une repentance sincère. L'oppression est donc, d'une part, la conséquence, c'est vrai, de l'infidélité du peuple, mais aussi le moyen que Dieu utilise pour faire revenir le peuple à lui. Il change ainsi le mal en bien, la malédiction en bénédiction. Et de même, dans de nombreuses histoires de chrétiens persécutés, eh bien, il y a cette réalité dont ils font témoignage. Sans que ces chrétiens n'aient nécessairement péché ou se soient éloignés de Dieu, j'ai perdu mon texte. Lorsque les choses vont mal, ils se sont naturellement réfugiés et rapprochés de Dieu. Et cette nouvelle intimité avec Dieu se prolonge au-delà de l'épreuve, de sorte que les difficultés et les persécutions leur sont finalement profitables.
La voix de Kamala, c'est ce qu'elle a vécu. Kamala Népali est née dans une famille hindoue au sein d'une communauté pauvre de l'ouest du Népal. Alors qu'elle est encore jeune, son père se convertit par suite d'une guérison miraculeuse. Elle-même découvre la foi en un Dieu d'amour qui sauve. Malheureusement, elle choisit plus tard d'épouser un homme hindou qui la détourne progressivement du Seigneur. Dans les années qui suivent, sa vie devient de plus en plus difficile, avec une belle famille alcoolique et un mari infidèle, l'empêchant de pratiquer sa foi. C'est dans cette souffrance, réalisant que ce chaos découle de sa désobéissance, qu'elle se repent de sa trahison à Dieu et revient à sa famille chrétienne et à la foi.
C'est la voix de Omar. Le pasteur Omar sert Dieu dans le nord du Mozambique, une zone où la persécution violente contre les croyants est malheureusement pratique courante. Malgré les menaces, les agressions et même des fausses accusations d'enlèvement, il continue à partager l'évangile et à former de nouveaux disciples. Un jour, un groupe islamiste l'attaque, le jette par terre, le lie, et s'apprête à le frapper violemment à la tête avec un bâton. Il pense alors sa dernière heure est arrivée. C'est à ce moment précis qu'il vit une expérience puissante de la présence de Dieu à ses côtés. La promesse de Jésus, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », lui vient à la mémoire. Et par la foi, il s'y accroche comme à une ancre. Sa délivrance intervient alors miraculeusement par l'arrivée à point nommé de l'armée régulière.
Samuel est le prophète de Dieu et son attitude nous parle dans ce passage que nous avons lu au début de la manière dont Dieu lui-même réagit vis-à-vis du peuple. Nous notons de sa part une pleine adhésion lorsque le peuple vient le voir dans une démarche sincère de retour à Dieu. Il accueille le peuple avec joie et lui rappelle les conditions d'un retour réel à Dieu. Samuel dit « Assemblez tout Israël à Mitzpah et je prierai l'Éternel pour vous ». Il est tellement réconfortant de constater que ici, Samuel ne fait pas de reproche au peuple. Comme Dieu non plus ne nous fait pas de reproche lorsque nous nous tournons vers lui avec sincérité, alors que peut-être nous sommes conscients de nos errements, de nos péchés ou bien de nos infidélités. Nous avons un Père qui nous a créés avec amour. faisant de nous une créature merveilleuse. Notre nom est gravé dans ses mains. Il a veillé sur nous avec ses tendres soins depuis que nous sommes nés. Il est toujours prêt à nous accueillir tels que nous sommes et là où nous en sommes sur nos chemins de vie. Il nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique pour nous sur la croix afin qu'il paye le prix de notre péché à notre place. Là, à la croix, son amour a été manifesté de la plus éclatante et de la plus belle des façons. Dieu s'est ainsi incarné en Jésus et il sait ce que nous vivons dans notre condition humaine. Il connaît nos fatigues, nos maladies, nos handicaps, nos persécutions. Il sait ce qu'est la joie, mais aussi la tristesse ou l'angoisse, par exemple. De ce fait, quand nous nous tournons vers Jésus, il a une oreille attentive et empreinte de compassion. Nous savons qu'il peut nous comprendre, nous pardonner sans juger, repartir avec nous de nouveau. Samuel accueille et encourage donc la démarche du peuple et lui montre ce que Dieu attend et participe lui-même pleinement au retour à Dieu. Il dit à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel, et il cria à l'Éternel pour Israël.
Lorsque Kamala revient à sa famille et à Dieu, les choses ne sont pas faciles. Elle doit endurer le divorce et la persécution de son frère qui n'est pas chrétien. Mais elle trouve refuge en Dieu et le recherche de tout son cœur. D'abord hébergée provisoirement dans l'église, elle trouve ensuite une chambre où vivre avec sa fille et reconstruire sa vie. Elle peut témoigner de la bonté de Dieu à son égard, qui lui a fait bon accueil et la pardonne.
Les paroles de Samuel montrent la nécessité d'une démarche sincère. Il parle de la réalité profonde du cœur des personnes qui souhaitent revenir à Dieu. Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Le Seigneur ne peut se satisfaire de démarches formelles ou liturgiques si elles ne sont pas vécues profondément et en vérité. Il désire que nous manifestions un élan sincère vers lui, avec une repentance véritable et profonde. Les faux-semblants, les gestes et les paroles superficielles ne lui conviennent pas. Lorsque nous revenons à Dieu, faisons-le sans arrière-pensée et de tout notre cœur. Et le peuple d'Israël est, j'ai envie de dire cette fois-ci, et à cet égard, un exemple pour nous. Ils rejettent en effet leurs idoles, reconnaissant et confessant leurs péchés et même engageant un jeûne. Oui, ils se tournent pleinement vers Dieu en toute sincérité. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit « Assemblez tout Israël à Mitzpah et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant « Nous avons péché contre l'Éternel ». Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Après tout cela, les Philistins, on l'a lu, constatent un rassemblement du peuple d'Israël et ils décident de se rassembler contre eux pour leur faire la guerre. Mais cette fois enfin, Dieu va accorder une pleine délivrance à son peuple et va repousser l'ennemi aux frontières du territoire. Et cette victoire confirme le bon accueil que le Seigneur a fait au peuple repentant. Elle atteste du rétablissement d'Israël dans son alliance avec Dieu. L'arche de l'alliance était devenue comme une espèce d'idole dans laquelle Israël mettait alors son espérance, mais la délivrance de l'épreuve, le triomphe face aux difficultés, se fait dans une véritable confiance à Dieu et non dans des idoles ou même parfois en nous-mêmes. Parce que Israël s'est repenti, s'est tourné vers Dieu et a choisi de le remettre au centre de sa vie, eh bien Dieu l'a gardé, protégé et délivré. Et pour commémorer cette victoire et en garder le souvenir, Samuel place la pierre Ebenezer, qui veut dire pierre du secours, sur le lieu même où il y avait eu la défaite 20 ans auparavant dans le chapitre 4. Défaite qui avait alors permis à l'oppression de l'ennemi de s'installer durablement. Enfin, un temps de délivrance et de repos. La pierre posée, Ebenezer, est une proclamation du plein rétablissement d'Israël dans son territoire, mais aussi et surtout dans son alliance avec Dieu. Il va maintenant bénéficier d'une paix durable. Cet happy end illustre ce que Dieu peut et veut également faire dans nos vies. Il souhaite restaurer et bénir chacun dans de nombreux domaines et nous accorder sa paix et sa joie. Une vie de liberté et de victoire est possible lorsque l'on revient à lui dans la sincérité et dans la repentance, ainsi que le peuple d'Israël l'a expérimenté.
Kamala aussi nous donne un exemple de la restauration que Dieu opère dans la vie de ceux qui reviennent à lui. Elle a repris progressivement le cours d'une vie normale, car Dieu l'a sortie de l'épreuve par le haut.
La pierre commémorative qui a été posée par Samuel est un signe de reconnaissance à Dieu, un rappel pour les générations futures. Elle constitue une pierre de référence, un signe visible, un souvenir perpétuel pour le peuple, du secours et de la fidélité de Dieu à son égard. La parole de Samuel lors de l'inauguration de cette pierre nous montre qu'il porte un regard qui s'étend à toute la période des juges. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Malgré les chutes périodiques d'Israël, Dieu a toujours été fidèle. Il a toujours veillé sur son peuple pour le ramener à lui et pour le sauver. Il ne manque jamais de répondre lorsque le peuple se tourne vers lui dans une repentance sincère. Ne sommes-nous pas nous aussi appelés à faire de temps en temps des points de marche dans notre vie pour jeter un regard en arrière, à froid, et reconnaître la présence bénissante du Seigneur à nos côtés, même dans les temps de difficulté? Ne devons-nous pas nous aussi reconnaître la grâce de Dieu, sa puissance et sa souveraineté maintes fois démontrées dans notre histoire personnelle? Cette démarche de reconnaissance est un acte d'adoration salutaire qui nous place dans une juste attitude vis-à-vis de celui qui, comme un bon père, nous a fidèlement conduits, protégés, secourus et dans certains cas aussi corrigés avec amour pour nous ramener sans cesse à lui. Peut-être même pouvons-nous placer de manière visible, par exemple dans notre environnement de vie, comme notre logement, des pierres souvenirs qui témoignent des interventions de Dieu en notre faveur, de sorte que, eh bien, nous n'oublierons pas sa fidélité à notre égard, et aussi ce sera un témoignage pour les gens qui passeraient, par exemple, dans notre logement, pour notre famille, nos enfants, nos petits-enfants, de savoir que Dieu a été fidèle pour nous. Lorsque nous considérons la fidélité de Dieu tout au long de notre marche et jusqu'à ce jour, et que nous pouvons dire avec Samuel « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus », eh bien nous fortifions notre foi et nous la faisons gagner en maturité. Nous devenons de plus en plus forts pour affronter les difficultés de demain parce que nous avons expérimenté la bonté et la fidélité de Dieu au sein même des épreuves que nous avons pu subir.
Kamala partage avec nous son expérience. Quand j'étais jeune, j'allais à l'église, mais c'était juste une routine. Maintenant, après avoir été confrontée à cette situation, je me sens plus proche de Dieu. D'après mon expérience, je peux dire que Dieu nous envoie des épreuves dans la vie pour nous rapprocher de lui. Il ne nous abandonne pas dans les moments difficiles. Il veut que nous dépendions de lui, que nous ayons la foi en lui. Il nous aide à surmonter les difficultés.
Suite à la persécution, Omar et sa femme sont contraints de déménager. Ils se tournèrent vers Dieu pour savoir s'ils doivent continuer leur ministère. La fidélité de Dieu éprouvée par Omar ayant renforcé sa foi, il décide de revenir vivre sur le lieu où il a été persécuté afin de continuer sa mission. Nous avons compris que le Seigneur Jésus nous voulait ici, à servir les disciples et l'Église de cette région et être la voix des chrétiens persécutés, ceux qui souffrent, ceux qui pleurent, ceux qui passent par des épreuves en raison de leur foi. Maintenant que moi aussi, je suis passé par là, je comprends ce que cela signifie réellement d'être persécuté, de souffrir pour le nom de Jésus. C'est quelque chose que le Seigneur fait brûler dans mon cœur.
En conclusion, sachons regarder en arrière pour considérer la grande fidélité de Dieu dans notre marche avec lui et la manière dont il permet aux épreuves de nous ramener constamment à lui. Réjouissons-nous des délivrances apportées, de son pardon toujours offert, de sa bienveillance sans cesse démontrée. En nous appuyant sur l'expérience passée de sa fidélité dans les bons et dans les mauvais jours, apprenons à revenir sans cesse à lui dans l'humilité et dans la repentance, de sorte de grandir dans notre foi et dans notre intimité spirituelle avec lui. Soyons également attentifs à la voix du Saint-Esprit en nous. Ne sommes-nous pas invités à être l'expression du secours et de la fidélité de Dieu dans notre entourage, pour notre entourage et pour l'Église persécutée? Alors, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus et il sera notre secours à tous encore dans l'avenir. Je vous invite à prier. Seigneur, tu sais que nous ne sommes pas parfaits, qu'il y a des moments où nous pouvons tomber, qu'il y a des moments où nous pouvons bifurquer sur nos chemins, nous pouvons nous éloigner de toi, nous pouvons cesser de te faire confiance ou faire trop confiance dans nos propres forces ou dans des choses qui n'en ont aucun en réalité. Merci parce que tu es toujours prêt à nous accueillir. Quel que soit là où nous en sommes, quel que soit ce que nous avons pu faire, ce que nous avons pu dire, ce que nous avons pu penser, tu es toujours prêt à nous accueillir si nous venons à toi de façon sincère et authentique. Merci pour cet accueil inconditionnel. Merci pour ton amour sans cesse renouvelé. Merci parce que quand nous considérons tout ce qui s'est passé dans les années qui ont précédé, depuis les débuts et notre marche ici-bas sur terre et notre marche avec toi, eh bien nous devons effectivement dire, proclamer, reconnaître que jusqu'ici, tu nous as toujours secourus. Alors Seigneur, merci pour cette fidélité et pour tous tes bienfaits qui se renouvellent chaque jour, pour ta présence à nos côtés chaque jour, et pour cette certitude, cette assurance que nous avons, que tu seras encore avec nous chaque jour qui va venir, et que là encore tu vas nous secourir. Merci dans le nom de Jésus-Christ. Amen.